Elle passe son temps à regarder des bêtises à la télévision. Les séries et émissions de télé-réalité sont de plus en plus populaires. Elles stimulent le centre du plaisir dans le cerveau et permettent d'éviter de sentir l'ennui quand la vie n'est pas assez passionnante. La sécrétion d'opioïdes calme la souffrance, éteint les colères et jugule les angoisses. De plus, elles donnent un sujet de conversation avec les copines. Elles permettent de vivre toutes sortes de choses, d'expérimenter des sensations, des émotions, sans prendre de risques dans le réel. On comprend leur succès. 42% des ados sont scotchés à ces émissions. Ils peinent à acquérir de nouvelles connaissances dans toutes les matières, moins 16%. En cause notamment la pauvreté du vocabulaire dans ces émissions. Un peu, ça va. Mais si elle se réfugie dans les séries, cela peut cacher une dépression. Inutile de tenter de lui souligner qu'elle ne va pas s'épanouir avec ses bêtises, mieux vaut écouter ce qui se passe dans son cœur et l'aider à se libérer de ce qui l'empêche de s'épanouir dans la vraie vie. Manque-t-elle de liens? Manque-t-elle de pouvoir personnel? À moins que ce ne soit un problème d'influence sociale, est-ce son groupe qui est addict aux séries? String et mascara. Les performances des garçons ne sont pas impactées par leur tenue. Mais une fille en maillot de bain a plus de mal à résoudre un problème de maths que vêtue d'un sweatshirt large qui efface ses formes. C'est la théorie de l'auto-objectivation. Les filles s'évalueraient à partir d'un point de vue à la troisième personne plutôt qu'à la première personne. Dès qu'elles sont en dynamique de possible séduction, elles se regardent depuis l'extérieur et estiment inconsciemment leurs chances. C'est la même raison qui fait baisser les résultats d'une fille en maths dès lors qu'un garçon est présent dans la salle ou qui lui permet de réussir si on lui dit qu'il s'agit de dessin plutôt que de géométrie. L'auto-objectivation, se conjuguant avec le conformisme aux stéréotypes sociaux, « je suis une fille, donc je ne peux pas réussir en maths ». Je veux plaire. Je ne veux pas qu'on se moque de moi en disant que je suis coincée. L'hypersexualisation des jeunes filles est un problème de société et d'influence sociale. Nous pouvons en discuter avec notre ado, la faire réfléchir sur les intérêts de l'industrie de la mode, sur la notion de liberté et de conformisme social, sur la différence entre séduisante et séductrice, sur les messages transmis sur les femmes par ce type de vêtements. Mais ce ne sera jamais aussi efficace qu'une discussion en groupe avec ses pairs, au collège par exemple. D'autant qu'ils peuvent prendre alors des décisions de groupe. Nous pouvons renforcer ses capacités interoceptives en insistant non sur son apparence, mais sur son ressenti, en l'incitant à explorer ce qu'elle vit dans son corps quand elle porte tel ou tel vêtement, les émotions qui la traversent, ses pensées propres. Un jour d'examen important, elle peut faire l'expérience d'y aller en survêtement. Elle veut un piercing ou se faire tatouer. Votre fille vous réclame un piercing. « Tu sais, maman, c'est trop cool. J'ai vraiment envie d'avoir un piercing. T'es d'accord, hein? Et puis c'est discret. Tout le monde en a, tu sais. » Lors du tatouage, le corps sécrète des endorphines pour lutter contre la douleur. Ces endomorphines font se sentir bien. Certaines le font pour le soulagement que cela offre à des souffrances psychiques. Scarification, tatouage, perçage et autres marquages ont toujours existé. Depuis la nuit des temps, les humains font de l'art sur leur corps. Ces traces ont été des rituels religieux, d'intégration sociale ou simplement érotiques ou esthétiques. Aux yeux des adultes, se faire percer la langue est très différent de se faire trouer les lobes des oreilles. Les boucles d'oreilles font partie de notre culture. Mais dans la culture adolescente, les repères sont différents. Johnny Hallyday arbore tatouages et boucles d'oreilles multiples. Florent Manaudou montre son bijou de langue en sortant la tête de l'eau. Se faire percer n'est plus un acte rebelle, mais un geste de conformisme social, un signe d'appartenance culturelle. Dans cette période où le corps change tant, où la jeune fille s'interroge sur son apparence, décorer son corps lui permet aussi de le réapprivoiser, de reprendre du contrôle dessus. Marquer sa peau à vie ou la perforer n'est pas un acte anodin. L'autorisation parentale est requise pour les mineurs, ce qui nous donne la possibilité de discuter avec l'ado avant qu'il le fasse ou pas. Peut-être conservera-t-elle l'idée du tatouage, mais choisira quelque chose de plus discret ou de moins durable que sa première impulsion. Souvent, elle se rebelle à l'idée qu'il puisse y avoir une raison à son choix autre que pure esthétique. Des questions vraiment ouvertes et sans jugement l'aideront à en explorer les enjeux, à condition de ne pas attendre de réponse immédiate. Laisser l'ado avec la question pendant quelques jours est plus productif. Qu'est-ce que tu imagines que ça peut changer pour toi dans ta relation avec les autres, avec les filles, avec les garçons? Qu'est-ce qui se passerait si tu ne le faisais pas? Tu le fais pour ton copain. On se dit toujours que c'est pour la vie, mais si un jour vous n'étiez plus ensemble, comment vivrais-tu ce piercing? Tu veux booster ton potentiel d'attraction, mais qu'est-ce que tu risques de te dire si effectivement tu découvres que les garçons sont davantage attirés par toi parce que tu as ce piercing ou ce tatouage? Et est-ce que ça signifie que sans cet artifice, tu ne te sens pas attirante? Nous pouvons ensuite l'inviter à se projeter dans le futur et à envisager divers scénarios possibles dans le futur. Imagine-toi dans 10 ans, dans 20 ans. Qu'est-ce que tu pourrais te dire sur ce tatouage? Quel impact cela pourrait avoir sur tes relations sociales et professionnelles? Quelles conséquences pourraient en découler? Imagine si, à l'avenir, tu as envie de postuler dans une grande entreprise, dans une ONG. Quelques options. Les tatouages temporaires, type décalcomanie. Les tatouages au henné durent un mois. L'encre australienne tient entre 5 et 10 jours. Les bijoux de peau éphémères dorés se collent sur la peau et tiennent 2 à 7 jours. Pour les endorphines, un tapis d'acupression. Elle se scarifie. Ça me fait du bien, ça me soulage. La scarification est une coupure que l'ado s'inflige à la lame de rasoir, voire au compas. Quand on se sent vraiment trop mal, plutôt que d'éclater en sanglots, certaines préfèrent se couper. Se scarifier ou se brûler déclenche une giclée d'endorphines. Ces endomorphines calment le trop-plein de souffrance. Il y a la scarification pour ne plus sentir et la scarification d'écho. Tout un mouvement prônant la recherche esthétique par le marquage du corps, cicatrices travaillées en boursouflure, imprégnées d'encre, l'apparente au tatouage et au piercing. Elle porte toujours des manches longues et refuse de se mettre en t-shirt? Pas de panique, ni de jugement. Les choses sont à prendre au sérieux, mais sans dramatiser. La priorité va toujours à la restauration du lien avec l'ado. Puis, nous pourrons écouter ses souffrances, l'aider à mettre des mots sur les blessures qu'elle n'ose dire. Consulter un psy ou un coach peut l'aider grandement. Il est plus facile de parler à une tierce personne quand on se sent mal. Les ados peuvent ne pas oser nous parler pour ne pas nous peiner. Ils ne consomment que coca, burger ou pizza. J'ai faim, il me faut de la vraie nourriture, des trucs qui me calent. Il ingurgite des quantités surprenantes de nourriture et recherche surtout ce qui cale son ventre et stimule rapidement le circuit du plaisir dans son cerveau, graisse saturée et sucre. C'est naturel, il est en pleine croissance. Il a réellement besoin de sucre. Mais pas du sucre raffiné ni des graisses de l'industrie alimentaire. Ses neurones ont besoin de graisses polyinsaturées, les fameux acides gras oméga-3. Les graisses industrielles ne font qu'encrasser la machine. Les pics d'insuline déclenchés par une consommation quotidienne de fortes quantités de sucre raffiné entraînent des lésions neuro-inflammatoires dans le cerveau, causant des troubles de la concentration, de la mémoire et de l'humeur, de l'irritabilité, de l'anxiété, de l'impulsivité. Problème, manger sain ne fait guère partie de la culture ado actuelle. Et personne n'a envie de subir des moqueries parce qu'il ne mange pas ce que les autres mangent. Pour avoir une chance de réguler leur alimentation, pas d'interdit, pas de limitation, mais des expériences et des ajouts. Un petit déjeuner copieux et contenant de bons gras lui permettra d'avoir moins de fringales sucrées dans la journée. Inutile de le prévenir, il le découvrira tout seul. Des œufs, du saumon, des sardines, pourquoi pas, des noix, noisettes, de la crème de coco, de la purée d'amandes, de cacahuètes, de cajou, de pistaches, un flan de graines de chia au lait de coco. Quand il a besoin de se concentrer, s'il présente des examens, pourquoi ne pas lui proposer un test? La veille, il ne mange que des fruits, des noix, des légumes, du poisson gras, saumon, maquereau, sardines, et de l'huile de colza. Et puis, quand on a plaisir à cuisiner, on mange mieux. Un soir par semaine, c'est lui qui officie à la cuisine pour toute la famille. Retrouvez sur le site filiosa.net des idées de petits déjeuners qui boostent le cerveau. Elles boivent de l'alcool. On déconne, c'est pas grave, c'est trop cool de boire. Je me sens tellement mieux quand je bois. Et puis, on est ensemble. 69% des élèves de terminale ont déjà été ivres. 59% des élèves de 6e disent avoir déjà consommé de l'alcool dans le cadre familial. Dans les films, à la télévision, partout, l'alcool est associé à la séduction, à la virilité, au pouvoir, au succès. Comment nos adolescents pourraient ne pas en avoir une image positive? Des jeunes ayant bu une boisson qu'ils croyaient alcoolisée, alors que ce n'était pas le cas, se sont jugés plus séduisants que lorsqu'ils pensaient avoir bu une boisson non alcoolisée. Boire, c'est être cool et sexy. Et puis, ça met à l'aise dans les soirées. Souci supplémentaire, les adolescents tiennent mieux l'alcool que les adultes. Ils peuvent boire davantage avant de rencontrer des effets secondaires désagréables. Il leur en faut vraiment beaucoup pour être assommés ou marcher de travers. Ils ont même moins la gueule de bois le lendemain matin. Une consommation répétée au cours de l'adolescence provoque des modifications durables dans le cerveau. L'alcool altère l'hippocampe notamment, mais ils ne s'en rendent pas compte. Face à l'attraction du fruit défendu, du plaisir de l'ivresse et à l'influence sociale, nos menaces et interdits ne pèseront pas lourd, voire risquent de provoquer l'inverse de l'effet attendu. Pour résister à la tentation de boire, les adolescents ont besoin de se sentir solides dans leur choix, de savoir comment faire autrement que le groupe sans s'exclure, et s'ils décident de consommer, de savoir y goûter avec mesure. Notre priorité, rester sans jugement, leur fournir de l'information sans leur faire la morale, et du lien, du lien. Du lien. Faire des courses avec eux, les conduire à leurs activités, toutes les occasions sont bonnes pour passer du temps ensemble et surtout leur sourire, leur faire sentir que nous les aimons. Sur cette base solide d'une bonne relation avec ses parents, le jeune pourra plus facilement résister à la pression du groupe. Une fête sous notre toit? Nous pouvons établir une règle, par exemple, s'il y a de l'alcool, je ramène chacun chez lui. Une règle est une procédure, pas un interdit. Et bien sûr, si nous découvrons de l'alcool, nous agissons en conséquence avec empathie et fermeté. Le lendemain ou le surlendemain, après avoir fait le tri entre les émotions liées à notre propre histoire et à ce qui est approprié face à la situation d'aujourd'hui, nous pourrons en reparler avec notre ado. Comprenons que la problématique de l'ado est davantage sociale qu'un vrai désir de s'alcooliser. C'est pourquoi les discours sur l'alcoolisation sont insuffisants s'ils n'incluent pas l'acquisition de compétences sociales pour dire non ou pour se faire des amis sans faire comme eux. Lorsque nous découvrons une transgression, décrire, exprimer authentiquement nos sentiments et faire réfléchir sera toujours plus efficace que crier et punir.